Voix Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui. Édition du jeudi 16 mars 2017 en direct de Washington. Idrissa Seboulia et Anne Albertson. On commence avec les titres.
Au Rwanda, comparution de 44 musulmans devant la haute cour de Kigali. Ils sont accusés de terrorisme.
En Guinée, Toumba Diakité, extradé récemment du Sénégal, a été inculpé en rapport avec le massacre de plus de 150 opposants en 2009 à Conakry.
Ici aux États-Unis, nouveau revers judiciaire pour le président Donald Trump. Deux juges fédéraux ont bloqué la deuxième version de son décret migratoire.
Aux Pays-Bas, le premier ministre libéral, Mark Rutte, semble avoir facilement battu son rival d'extrême droite, l'islamophobe Geert Wilders.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
44 musulmans rwandais accusés de terrorisme ont comparu hier devant la haute cour de Kigali. Ils avaient été arrêtés après que la police a abattu début 2016 un religieux musulman soupçonné de recruter pour le groupe État islamique. Des détails avec John Linden.
La justice rwandaise n'a pas publié d'acte d'accusation pour ces 44 hommes et femmes, parmi lesquels figurent quelques mineurs. Augustin Kabeya, un de leurs avocats, a indiqué que si les charges diffèrent d'un accusé à l'autre, elles sont toutes liées au terrorisme. À ce jour, aucune attaque terroriste djihadiste n'a été recensée sur le territoire rwandais. Mais les autorités avaient assuré en janvier 2016, sans en apporter la preuve, avoir détecté la formation des réseaux terroristes et plusieurs interpellations avaient suivi. Ces accusations avaient fait suite à la mort en janvier 2016 d'un religieux musulman soupçonné de recruter des jeunes pour rejoindre le groupe État islamique en Syrie. Hier, lors d'une des rares audiences publiques depuis le début de cette affaire sensible, les juges ont décidé de repousser l'ouverture du procès au 4 avril après l'avoir déjà reporté précédemment, la défense demandant plus de temps pour prendre connaissance du dossier d'accusation.
Le Cameroun a annoncé hier la libération de 5000 otages détenus dans une base du groupe djihadiste Boko Haram au cours d'une opération militaire menée pendant une semaine par des forces ouest-africaines. Ces otages sont essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées. La base, située dans une région montagneuse à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, a été complètement rasée, a déclaré lors d'une conférence de presse le ministre camerounais de la Communication, Issa Tiroma.
Au Niger, plusieurs procès à huis clos depuis début mars et dans la plus grande discrétion, d'un millier de présumés combattants islamistes de Boko Haram poursuivis pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Selon l'ONU, un total de 291 civils ont été tués et 143 blessés dans des attaques attribuées à Boko Haram entre février 2015 et février 2017 dans la région de Diffa, dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria.
En Côte d'Ivoire, les avocats de l'ancienne première dame Simone Gbagbo, jugée à Abidjan pour crime contre l'humanité, demandent la reprise totale du procès. Précision d'Arzuma Compaoré.
L'équipe de la défense de Mme Gbagbo a quitté le tribunal mercredi après avoir, pendant une heure, dénoncé l'irrégularité de la constitution de la cour. Ils estiment que l'un des assesseurs avait été remplacé sans respecter le mode de désignation. Des griefs que le président de la cour d'assises, le juge Kwadjo Boigui, a rejetés, faisant valoir que l'irrégularité de la cour d'assises ne peut être constatée que par la cour suprême. L'audience a été ajournée à mardi. Une nouvelle fois, l'ancienne première dame était absente du tribunal. Madame Gbagbo est jugée pour son implication présumée dans des tirs d'obus sur le marché d'Abobo, un quartier d'Abidjan durant la crise post-électorale de 2010 à 2011, et pour sa participation à une cellule qui organisait des attaques menées par des milices et des militaires proches du régime. Ses avocats ont été commis d'office après le retrait de ses conseils. Mardi, le procureur général Ali Yeo les a accusés de vouloir saboter le procès.
En Guinée, Toumba Diakité, extradé récemment du Sénégal, a été inculpé de plusieurs chefs liés au massacre de plus de 150 opposants en 2009 à Conakry, selon un communiqué diffusé hier soir par le ministère de la Justice. Rappelons que M. Diakité était l'aide de camp du chef de la junte qui a dirigé la Guinée pendant un an en 2008-2009, le capitaine Moussa Dadis Camara, qu'il avait ensuite tenté de tuer.
En Angola, la justice a condamné hier à des peines de 4 à 10 ans de prison 8 hommes reconnus coupables d'une mystérieuse tentative de coup d'État contre le président José Eduardo dos Santos, tentative qui a échoué aux portes de son palais il y a un an. Le procès fleuve de 35 des putschistes présumés, présentés par l'accusation comme des membres de l'ex-rébellion de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA, a débuté quelques jours plus tard dans un tribunal de Luanda.
Au Maroc, après 5 mois de négociations infructueuses, le premier ministre islamiste marocain Abdelilah Benkirane a été remercié mercredi soir sur décision du roi Mohamed VI. Le souverain chérifien nommera dans les prochains jours une personnalité politique issue du même parti. La situation est inédite dans l'histoire récente du Maroc. 5 mois sans gouvernement et le remplacement du premier ministre désigné pour dépasser la situation d'immobilisme actuel, selon un communiqué rendu public mercredi soir par le cabinet royal.
Au Sénégal, Sénéweb, notre correspondant à Dakar, annonce la mort du calife général de la grande secte des Tidiane. Serigne Cheikh Tidiane VI est décédé mercredi 15 mars. Selon la RFM, il a été inhumé dans la nuit à Tiaouane, où ont afflué, dès l'annonce de la nouvelle, de nombreux fidèles. Serigne Cheikh Tidiane VI, né en 1925, aurait eu 92 ans au mois de décembre prochain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, 2 juges fédéraux ont bloqué hier, pour l'ensemble du pays, la 2e version du décret migratoire du président Donald Trump. Il s'agit d'un nouveau revers judiciaire pour M. Trump sur une des mesures phares de sa présidence. Des détails avec Jean-Roger Bion.
À quelques heures seulement de l'entrée en vigueur du nouveau texte, qui avait pourtant été expurgé de ses éléments les plus contestés, le magistrat de Hawaï, Derek Watson, a estimé dans son jugement que la suspension temporaire du décret éviterait un préjudice irréparable. Tenant une réunion publique à Nashville, dans le sud, le président américain a dénoncé la décision erronée d'une justice qui, selon lui, commet ainsi un abus de pouvoir sans précédent. Il a promis d'aller jusqu'à la Cour suprême. Pour expliquer sa décision, le juge Watson s'appuie notamment sur plusieurs déclarations de Donald Trump à l'égard des musulmans pour conclure que le décret comporte des preuves significatives et irréfutables d'animosité religieuse. Sa décision fait référence à des propos de campagne de Donald Trump lorsqu'il s'était prononcé pour une interdiction d'entrée des musulmans sur le territoire américain. Le texte controversé qui bannit l'entrée des États-Unis aux ressortissants de 6 pays musulmans devait être appliqué à partir de mercredi à minuit, heure de Washington, soit jeudi 4 GMT. 2 autres audiences se sont également déroulées mercredi au Maryland et dans l'État de Washington qui ont donné lieu à de vives joutes sur ce décret migratoire.
Et dans l'État de Washington, un juge fédéral de Seattle a de son côté accepté une demande de suspension provisoire de 14 jours par les États de Washington et de l'Oregon, en citant là aussi les préjudices irréparables que causerait le décret.
Aux Pays-Bas, le premier ministre libéral Mark Rutte, qui semble avoir facilement battu son rival d'extrême droite Geert Wilders hier aux législatives néerlandaises, a salué une victoire contre ce qu'il a appelé le populisme de mauvais aloi, au grand soulagement de l'Europe. Après le Brexit au Royaume-Uni et la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, tous les yeux étaient braqués sur la formation de Geert Wilders, dont le score était attendu comme un baromètre de la montée du populisme en Europe à moins de 40 jours de la présidentielle française et avant les législatives allemandes de l'automne.
Les États-Unis ont annoncé hier l'ouverture de poursuites judiciaires contre 2 espions russes et 2 pirates informatiques. Le ministère américain de la Justice les accuse d'être responsables du piratage d'au moins 500 millions de comptes Yahoo entre 2014 et 2016. Jacques Aristide.
Il s'agit d'une cyberattaque considérée comme l'une des plus importantes jamais réalisées dans le monde et c'est la première fois que le gouvernement américain engage de telles poursuites contre des ressortissants russes. Les 2 espions, Dimitri Dokoutchaïev et Igor Chouchkin, appartiennent au service fédéral de sécurité, le FSB, qui a remplacé le KGB. Quant aux 2 hackers, ils sont Alexeyev Belan, l'un des pirates informatiques les plus recherchés de la planète, et Karim Baratov, un Kazakh qui a été arrêté au Canada en début de semaine. Belan, lui, a fait l'objet d'une procédure d'extradition de la part de Washington. Yahoo avait annoncé ce piratage à grande échelle en septembre dernier, le groupe Internet indiquant à l'époque qu'il s'agissait d'une attaque pilotée par un État. L'affaire a pesé lors du rachat de ses activités Internet et de messagerie par l'opérateur téléphonique Verizon, car Yahoo a dû offrir un rabais de 350 millions de dollars à l'acheteur sur l'offre initiale de 4,83 milliards de dollars.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Claire Morin-Gibourg.
À Brazzaville, une quinzaine de jeunes militants du mouvement citoyen Ras-le-Bol ont manifesté hier devant le siège d'Ecker, Equatorial Congo Airlines, pour dénoncer la mauvaise gestion de la compagnie aérienne publique. Les avions d'Ecker sont cloués au sol depuis octobre en raison de son endettement. Charlin Kinoani, le coordinateur adjoint du mouvement, insiste pour que les responsabilités de ce gâchis d'argent public soient établies. Abdelkader Messaël, le ministre algérien des Affaires maghrébines et de l'Union africaine, l'a affirmé à la télévision algérienne, la route transsaharienne Alger-Lagos sera opérationnelle en 2018. Cette route de 4600 km est stratégique pour le commerce entre pays africains. Cet axe est financé par la BAD et les pays concernés, l'Algérie, la Tunisie, le Niger, le Mali, le Tchad et le Nigeria. Ce projet routier est né dans les années 60 pour désenclaver les zones déshéritées et pour promouvoir les échanges entre le nord et le sud du Sahara. Le neveu de Denis Sassou Nguesso, Wilfried Nguesso, a été mis en examen en France pour blanchiment de détournement de fonds publics dans le cadre de l'affaire dite de bien mal acquis. Une information confirmée à Jeune Afrique par William Bourdon, avocat de l'association Transparency International, qui avait déposé la plainte qui a déclenché l'affaire.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Manchester City éliminé de la Ligue des Champions.
Après le match fou à l'aller, Monaco a dominé Manchester City 3-1 hier à domicile. Kylian Mbappé, 18 ans, ouvre la marque pour Monaco dès la 8e minute de jeu. Fabinho double la mise pour les Monégasques à la 29e minute de jeu. Pour le reste, il faut attendre la deuxième mi-temps pour voir les choses se décanter. C'est tout d'abord Leroy Sané qui est là pour reprendre et réduire l'écart pour les Anglais. 2-1 à la 70e minute de jeu. À ce moment-là, Monaco est éliminé, mais les Monégasques vont trouver les ressources nécessaires. Et c'est Tiemoué Bakayoko qui va permettre de qualifier le club de la principauté avec un troisième but. Une victoire 3-1 pour Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, arrivé l'été dernier. L'échec est d'autant plus cuisant qu'il n'a jamais été éliminé si tôt de la compétition dans sa jeune carrière d'entraîneur. Dans l'autre rencontre, match nul 0-0 entre l'Atlético Madrid et le Bayer Leverkusen. Un score favorable aux Espagnols qui l'avaient emporté 4-2 à l'aller.
Et ce jeudi, place à la Ligue Europa.
Manchester United reçoit le club russe de Rostov, face auquel il avait calé un but partout lors du match aller. Lyon doit préserver son avance sur la pelouse de l'AS Rome après une victoire convaincante à l'aller 4-2. À noter également le derby belge entre Genk et la Gantoise, mais également le derby allemand entre Mönchengladbach et Schalke 04. L'Olympiakos en déplacement à Besiktas, Krasnodar qui accueille le Celta Vigo, Anderlecht qui reçoit l'Apoel Nicosie et Copenhague qui se déplace chez l'Ajax d'Amsterdam.
Toujours ce jeudi, grand rendez-vous à Addis Abeba pour la CAF.
Oissa Hayatou brigue à 70 ans un huitième mandat à la tête de la Confédération africaine de football qu'il dirige depuis 1988. Le méconnu Ahmad Ahmad, le président de la fédération malgache, est le seul à s'opposer à lui. Ce sera tout à l'heure à Addis Abeba. Allez Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Dallas et Washington 112-107, Chicago et Indiana 77-98, Minnesota et Boston 104-117, New Orleans Pelicans et Miami 112-120, Utah et Detroit 97-83, Memphis et Chicago 98-91, Los Angeles Lakers et Houston 100 et 139, Portland et San Antonio 110-106, Sacramento et Phoenix 107-101.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le pape François ne se rendra finalement plus en République démocratique du Congo en juin et juillet. Selon les autorités congolaises, la visite a été plutôt annulée à leur demande pour des raisons de sécurité. Eddie Isango a joint à Kinshasa le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende.
Moi, d'après ce que je sais, c'est notre pays qui a estimé que la situation ne se prêtait pas à ce qu'il puisse venir ces jours-ci. Alors, il a annulé la visite au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Russie, en Ukraine. Partout ailleurs, il n'y a pas de problème. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait de problème seulement ici? Ce sont des arrangements professionnels qui se font entre chefs d'État. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit faire des commentaires là-dessus.
Est-ce que la situation particulière en RDC, avec un accord qui n'est pas appliqué, avec l'insécurité qui commence à devenir un problématique, n'est pas la raison de cette annulation?
Ça n'a rien à voir. Sinon, le pape ne serait pas allé en Syrie. Il ne serait pas allé en République centrafricaine où la situation est pire qu'ici. Il n'irait pas au Soudan du Sud où la situation est pire qu'ici. Donc, c'est les autorités congolaises qui ont estimé que la situation sécuritaire n'est pas tellement pour que cette visite ait lieu dans ces conditions-là. Il faut attendre que la situation puisse évoluer. Donc, il n'y a pas de signification en ce qui concerne un jugement de valeur.
Parlant justement de l'insécurité, deux experts de la MONUSCO, un Américain et un Suédois, et leurs compagnons congolais qui sont portés disparus, quelle est la situation exacte? Est-ce que le gouvernement mène des enquêtes là-dessus?
Le gouvernement est en train de rechercher ces personnes qui ont été enlevées. Le gouvernement n'est pas content du fait que des experts des Nations Unies soient venus sans le prévenir, parce qu'on aurait pu éviter ce drame. Ils sont arrivés dans une zone qui est une zone d'insécurité, où on aurait pu leur offrir une escorte, où on aurait pu les déconseiller d'aller s'ils avaient prévenu les autorités. Nous devons d'abord résoudre le problème qui est celui de les retrouver vivants de préférence. Il y a des recherches qui sont en train d'être entreprises par nous et par la MONUSCO. Jusqu'à présent, les recherches n'ont rien donné. Nous continuons à chercher, mais nous ne désespérons pas.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Concernant encore le souverain pontife, le pape François a qualifié hier sur la place Saint-Pierre de « péché gravissime » la suppression des emplois. Il recevait des pèlerins francophones de l'association Chemin d'Humanité. Dans sa défense des travailleurs menacés de licenciement, le souverain pontife a fustigé l'argent roi et la finance aveugle. Ces propos correspondent à la doctrine sociale de l'Église, formulée déjà à la fin du XIXe siècle sous le pape Léon XIII. Pour plus de détails, Eric Manirakiza a joint au Vatican le chargé de l'Afrique et du secteur francophone au secrétariat pour la communication, l'abbé Janvier-Marie-Gustave Yameougo.
Des problèmes sociaux que le pape rappelle effectivement que supprimer des emplois est un péché gravissime. Parce qu'il y a la société, il y a l'économie, il y a les affaires, mais fermer des usines, fermer des entreprises, supprimer le travail, cela met les personnes dans une précarité, surtout les jeunes, et cela est même inacceptable. Le pape l'a dénoncé plusieurs fois, que l'homme doit être prioritaire. Et c'est vrai que dans la pensée du pape, il faut plutôt réorganiser le travail et réorganiser la société plutôt que de viser simplement à chaque fois à l'efficacité, à la rentabilité, aux plus-values, partager des dividendes aux actionnaires.
Mais très souvent, ces entreprises invoquent des problèmes de financement. Ce n'est pas fait exprès dans certaines circonstances.
Le pape a reçu aussi quelques entrepreneurs qui ont accepté de faire des sacrifices, notamment pour ne pas mettre les familles des employés vraiment dans la précarité. Je le répète, c'est une question d'abord de dignité humaine. Ce n'est pas une question de rentabilité à rechercher. Dans plusieurs endroits, le pape l'a souligné et c'est possible de trouver des solutions pour maintenir les emplois en dialogue avec les employés. Donc l'homme est prioritaire et il ne faut pas mettre les gens dans la précarité. Ça détruit les familles. Vous savez que dans plusieurs situations, même il y a des employés licenciés ont mis fin à leur jour parce qu'ils étaient vraiment dans le désespoir. Et c'est pour cela que le pape peut dire que c'est un péché gravissime de supprimer le travail d'hommes et de femmes.
Le pape dit aussi que le travail donne à l'homme de la dignité.
Naturellement, dans l'encyclique Laudato Si, le pape invite Karma à repenser même la notion du travail pour donner de la dignité à tout homme. Les questions, par exemple, de salaire, il y a un écart de salaire actuellement qui est parfois injustifiable. Ça va de 1 à 100 dans certaines situations. Donc, il y a une question de justice sociale, et une question de répartition du travail pour permettre aux hommes et aux femmes de notre société de vivre dignement.
L'abbé Janvier-Marie Gustave Yameogo, joint au Vatican. Au Cameroun, grogne au Centre national de réhabilitation des handicapés à Yaoundé. Le personnel réclame l'application de son nouveau statut adopté il y a 8 ans. Pour se faire entendre, celui-ci a lancé une grève pacifique en début de semaine, grève qui paralyse les services du centre. Reportage sur place de notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Julntap.
Il ne fait pas bon vivre au Centre national de réhabilitation des handicapés du Cameroun. Les travailleurs sont sans salaire et sans motivation. Ruben Djumou, délégué du personnel.
Nous sommes au troisième mois sans salaire. Ce n'est pas parce que l'argent manque. Nous sommes convaincus que ces moyens sont arrivés ici au centre, mais ça ne nous a pas été donné. Un malheureux ne peut pas s'occuper d'un autre malheureux. C'est pour cela qu'on revendique.
Le Centre national de réhabilitation a aussi un volet formation qui se meurt. Nous sommes dans un atelier de menuiserie en cessation d'activité ce jour.
Je suis donc formateur en menuiserie. Qu'une machine ne fonctionne sur toutes les machines qui sont en face de vous. Au bout des petites pannes, nous sommes obligés d'aller raboter ou scier les planches à l'extérieur, revenir ici leur montrer comment monter tel ou tel ouvrage.
L'atelier de couture ne présente non plus meilleur visage. L'insuffisance du matériel est anecdotique. Une élève raconte.
Dans les 17 machines, il y a seulement 2 machines qui fonctionnent. Par exemple, comme quelqu'un veut voler la carrue, le temps qu'elle thermocolmose, je profite. Quand elle revient, j'attends. Quand elle va se lever, je reviens. C'est comme ça que nous, on fonctionne.
Les patients grincent également les dents contre le Centre national de réhabilitation des handicapés du Cameroun. Madame Concorde Bindi n'a pas eu droit aux soins du jour. Mais il y a pire ici, dit-elle.
Il n'y a pas d'eau courante. Je suis handicapée, je ne peux pas marcher avec mes 2 pieds pour venir puiser l'eau dans le puits. Il faut que quelqu'un d'autre a épuisé l'eau pour que je me lave avec.
Sans eau courante depuis des années, les robinets et la piscine de rééducation du centre sont à sec. La buanderie a pris feu il y a quelques mois et n'a pas été réhabilitée. C'est fort de tout ceci que le syndicat pour l'émergence du social au Cameroun a appelé à la grève pour sauver la dignité du centre et de tous les patients. Romain Rolangor, président du syndicat.
Les pouvoirs publics allouent d'énormes sommes d'argent à cette structure. Nous avons un contrat plan qui s'élève à 4 milliards de francs. Nous avons un budget de près de 500 millions. Et je vous demanderai même de passer dans les dortoirs, les chambres, mais vous verrez que ce n'est pas grand-chose. Cette politique de façade, on ne peut pas la laisser perdurer.
Sans réel pouvoir, face aux multiples doléances, la directrice du Centre national des handicapés est consciente du malaise. Grâce Formuleux.
Je résous ce qui relève de ma compétence et ce qui relève des compétences de conseil. Je prépare le dossier pour le conseil.
Est-ce que le conseil d'administration est informé de ce qu'il n'y a pas d'eau courante pour les patients du centre?
La commission de passation de marché du centre a passé cette marché à un individu qui, à la dernière minute, nous a laissé et n'a pas réalisé ça.
Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Les variations climatiques en Afrique australe de l'ouest et de l'est ont contribué aux mauvaises récoltes et donc à une flambée des prix des denrées alimentaires. Toutefois, et selon les spécialistes, d'autres facteurs jouent également dans cette situation. Précision de Michel Joseph.
Godfrey Nwosu dirige la Fédération nigériane des agriculteurs.
On est tenté, dit-il, d'imputer la hausse des prix des denrées alimentaires à la sécheresse qui sévit dans le bassin du lac Tchad. Toutefois, l'inflation, la hausse des prix du carburant, des taxes douanières élevées sur les équipements agricoles y contribuent également, estime-t-il. À cela, il faut ajouter la corruption, le manque de lois fortes en faveur du monde agricole et aussi le peu d'attrait que présente l'agriculture pour les jeunes chercheurs d'emploi, fait remarquer Godfrey Nwosu.
Les jeunes sont encouragés à s'engager dans l'agriculture, mais la plupart cherchent des emplois de bureau. La hausse des prix du carburant et d'autres produits contribue à son tour à faire monter les prix denrées alimentaires.
Les agences humanitaires ont récemment tiré la sonnette d'alarme au sujet de 16 millions de personnes menacées de famine à cause de la sécheresse en Afrique de l'Est. L'ONU a déclaré la famine dans certaines régions du Soudan du Sud et attiré l'attention sur la situation en Somalie. Après plus d'une année de pluviométrie insuffisante en Afrique australe, les agriculteurs de cette région s'attendent à de bonnes récoltes. Si la sécheresse a été le principal problème, celle-ci a mis à nu le manque de développement du secteur agricole, explique Paul Makoube, économiste agricole à la First National Bank d'Afrique du Sud.
C'est au fond la loi de l'offre et de la demande. Mais l'autre explication de l'irrégularité de la production agricole a trait à la non-adoption des technologies qui pourraient aider en cas de sécheresse.
L'économiste Jonathan Pound de la FAO note les efforts déployés par certains pays contre la flambée des prix des denrées alimentaires. Le Kenya a supprimé les droits de douane sur les importations de maïs. Le Zimbabwe a réduit les taxes sur les denrées alimentaires. D'autres pays ont mis sur le marché leurs réserves stratégiques pour faire baisser les prix. Toutefois, il y a un équilibre à établir, met en garde Jonathan Pound.
Il y a deux perspectives ici. Les prix doivent être abordables pour les consommateurs, mais en même temps, assez attractifs pour que les agriculteurs puissent produire et dégager des bénéfices.
Godfrey Nwosu, de la Fédération nigériane des agriculteurs, dit que son gouvernement doit en faire plus pour soutenir les agriculteurs et réduire leurs dépenses.
Dans Washington Forum, ce jeudi 16 mars, on décrypte le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. La grande tournée de Mohamed VI, de la Zambie à la Guinée, en passant par la Côte d'Ivoire. Une offensive diplomatique remarquée, mais quels enjeux économiques et politiques? Aussi la question épineuse du Sahara occidental. Quel avenir pour le Front Polisario? Quelles sont les avancées du Maroc sur ce conflit vieux de 40 ans? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show, chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa! We'll be right back.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.